Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le bilan est encore provisoire mais déjà très lourd. Au moins 40 personnes ont été tuées cette nuit en Nouvelle-Zélande dans plusieurs fusillades dans des mosquées. La police évoque 4 arrestations. Nous ferons le point dans un instant sur la situation.
Nous irons ensuite en Algérie où une nouvelle journée de contestation contre le pouvoir se profile. Les jeunes qui n'ont pas connu les années de plomb, insouciants en quelque sorte les jeunes, sont encore les premiers mobilisés.
Un vendredi pour le climat et une nouvelle grève scolaire. Pour cela dans le monde, la jeunesse, encore elle, se fait entendre, vous l'entendrez.
Et puis nous nous pencherons sur les contributions nationales au grand débat. Il se termine aujourd'hui. Les données sont compilées à la fois par l'intelligence artificielle et par des bénévoles.
Nathalie Loiseau se dit prête. Raphaël Glucksmann fait durer le suspense. À 2 mois et demi des élections européennes, Frédéric Seitz analysera l'art de déclarer sa candidature. Ce sera dans un gros quart d'heure dans son billet politique. Des mosquées ont été visées. Il y a 40 morts au moins et des blessés. Les fusillades ont eu lieu cette nuit en Nouvelle-Zélande. La police ne donne pas encore un bilan humain plus précis que ces 40 morts, mais précise que 4 personnes ont été arrêtées. Bonjour Omar Waman.
Bonjour Clara.
De la rédaction internationale de Radio France. Les 2 mosquées visées se trouvent dans la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande donc. Oh. Ces 2 mosquées étaient très fréquentées lors de l'attaque.
Oui, alors ces 2 attaques ont eu lieu en début d'après-midi, heure locale, lors de la grande prière hebdomadaire du vendredi dans 2 mosquées de cette ville de Christchurch sur la côte est de la Nouvelle-Zélande. Un homme vêtu d'une tenue de camouflage et muni d'un fusil automatique a donc ouvert le feu sur les fidèles. Des témoins rescapés de l'attaque ont raconté avoir vu de nombreux corps ensanglantés. Le bilan est considérable. La police fait état d'un nombre de morts significatifs. Vous l'avez dit, les autorités évoquent des dizaines de blessés, au moins 40. Et cette ville de Christchurch a été totalement bouclée. La police a procédé à 4 arrestations. 3 hommes et une femme est dit avoir trouvé des explosifs artisanaux. Et dernière information, selon le Premier ministre de l'Australie voisine, le tireur serait un terroriste extrémiste de droite et violent. Selon les sources australiennes.
Alors, ce tireur, ou en tout cas l'un des tireurs, a filmé une fusillade en direct cette nuit sur le réseau social Facebook. Glaçant, Omar.
Oui, détail macabre. Le tireur s'est filmé lui-même en direct sur ce réseau social Facebook en train d'abattre les fidèles présents. Des images de ce carnage ont été diffusées sur Internet. On peut voir un homme entrer dans une mosquée et ouvrir le feu au hasard. Des personnes assassinées de sang-froid en écoutant une musique de guerre civile américaine. L'homme est revenu à son véhicule pour changer d'arme avant de retourner dans le lieu de culte et poursuivre le massacre. Selon un témoin, il s'agirait d'un jeune homme blanc équipé d'un casque et d'un gilet pare-balles. Et peu avant le début de cette tuerie, il aurait diffusé sur les réseaux sociaux un manifeste en forme de revendication.
Merci beaucoup Omar Waman pour ses premières précisions ce matin. Le tueur, l'un des tueurs australiens, donc on l'a compris, immigré en Nouvelle-Zélande, suprémaciste blanc visiblement. Son profil a été esquissé sur France Culture dans la revue de presse internationale par Camille Manière ce matin. Vous pouvez la retrouver sur franceculture.fr. Je vous propose maintenant d'écouter la première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern. Elle a pris la parole cette nuit. Son pays, a-t-elle dit, a été attaqué parce qu'il représente la diversité.
Il est clair que c'est l'un des jours les plus sombres de la Nouvelle-Zélande. Ce qui s'est passé est un acte de violence extraordinaire et sans précédent. Nombre de ceux qui ont été directement touchés par cette fusillade pourraient être des migrants arrivés en Nouvelle-Zélande. Ce pourrait même être des réfugiés. Ils ont choisi de faire de la Nouvelle-Zélande leur pays. Et c'est leur pays. Ils sont nous. La personne qui a commis cette violence contre nous n'a pas sa place en Nouvelle-Zélande.
Voilà pour les propos de la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui évoque donc un bilan d'au moins 40 morts. La Nouvelle-Zélande jusque-là a été réputée pour sa faible criminalité. Le pays relève à élever son niveau d'alerte à la sécurité. Dans quelques heures maintenant, va débuter une grande mobilisation en Algérie. D'Oran à Constantine, en passant par Alger, la capitale, tous les habitants du pays sont de nouveau appelés à se rassembler ce vendredi, 4e vendredi consécutif, pour s'opposer au régime d'Abdelaziz Bouteflika. Le président a repoussé la présidentielle prévue le 18 avril, sans annoncer d'autres dates, comme une prolongation finalement de son mandat actuel. C'est la jeunesse qui a fait bouger certaines lignes en Algérie ces dernières semaines. C'est elle qui sera notamment mobilisée aujourd'hui. Les moins de 30 ans n'ont en effet pas connu la décennie noire de 90 à 2000 en Algérie. Le terrorisme et les dizaines de milliers de morts. Saïd Séguir l'a constaté, les jeunes sont prêts.
C'est une grande terrasse au dernier étage d'un vieil immeuble avec une vue imprenable sur Alger, un squat improvisé où une trentaine de jeunes se réunissent secrètement pour préparer les manifestations.
Je vis ça comme un éveil du peuple. En fait, c'était comme un rêve. On n'en peut plus, en fait. Du système, de ce président qui ne veut plus bouger de son trône.
Leïla, Inès, Samy ou Lily fabriquent des calicots en écoutant du Led Zeppelin avec l'insouciance touchante et déconcertante d'une jeunesse qui n'a connu les années noires de l'Algérie qu'à travers les récits des parents.
Il a reçu une balle au bras. Il a dû se cacher pendant 3 semaines parce qu'il était recherché par les autorités. Et ben là, chaque vendredi, il sort.
Ils n'ont même pas 20 ans et ils sont le nouveau visage de l'Algérie. Une génération qui refuse aujourd'hui d'endosser le passé tragique vécu par leurs aînés.
Je trouve que c'est une qualité plus qu'un défaut, parce que c'est grâce à cette insouciance, inconscience, qu'on y va tête baissée en fait, parce que eux, ils savent ce qui s'est passé et tout, donc ils ont peur, ils se disent non, on n'y va pas et tout. Bah, nous, on n'est pas au courant et on le fait quand même.
On croit en ce peuple. Ouais, on y croit. Et voilà, c'est beau.
Tout à l'heure, tous, sans exception, se retrouveront dans la rue avec toujours le même mot d'ordre, Silmia, pour un mouvement pacifique.
Saïd Séguir, envoyé spécial de Radio France à Alger. La jeunesse, encore force de mobilisation, force de contestation, un peu partout dans le monde ce vendredi, elle va défiler à Montréal, Tokyo, Hong Kong, Berlin, Bruxelles pour le climat. Des millions d'écoliers, de collégiens, de lycéens et d'étudiants seront en grève scolaire. C'était déjà le cas en Australie il y a quelques heures, puisque l'après-midi touche à sa fin, décalage horaire oblige. Et dans le cortège, notre correspondante Caroline Lafargue a rencontré Erika, 16 ans.
Les politiques font des promesses, mais ils n'ont pas toujours l'intention de les tenir. Donc on manifeste pour leur mettre la pression. Actuellement, notre avenir est incertain. Des scientifiques prédisent qu'il pourrait ne plus y avoir d'hiver en Australie d'ici 2050, car on aura une température moyenne de 22 degrés. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir les mêmes opportunités que celles des générations précédentes et ne pas avoir à me battre pour survivre tous les jours. Si le changement climatique continue, on aura plus de réfugiés climatiques. Et je ne veux pas que les gens aient à quitter leur maison submergée parce que nous n'aurons pas eu le courage d'agir tant qu'il était encore temps.
Alors en France, près de 200 manifestations sont également prévues aujourd'hui à Bordeaux, Lille, Nantes ou Paris pour le climat. Le ministre de l'Éducation nationale, lui, préférerait voir ses collégiens ou lycéens rester à l'école pour parler du climat. Jean-Michel Blanquer demande donc à tous les lycées d'organiser ce soir un débat de 16h à 18h. Ce n'est pas très loyal, estime Claire Renaud de l'association Les Jeunes pour le Climat. Elle répond à Véronique Rebérotte.
Nous, on est tout à fait ouverts à l'instauration et de débats dans les lycées, mais on dit que depuis des mois, notre grève est prévue et on appelle plutôt les lycéens et les étudiantes à venir exercer leur citoyenneté dans la rue, à venir marcher avec nous et à venir débattre entre eux en dehors du cadre de l'éducation nationale que l'on dénonce comme une éducation croissanciste. Une éducation qui apprend dans les sciences économiques les théories de la croissance et qui ne propose pas de modèles alternatifs comme la décroissance ou d'autres modèles économiques qui permettraient de réduire nos émissions de gaz à effet de serre véritablement. On dit que ça ne sert à rien d'aller dans les écoles pour apprendre un futur qui est en train de se déconstruire sous nos pas.
Demain, samedi, par ailleurs, une autre manifestation est prévue, la marche du siècle pour le climat cette fois.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le grand débat national se termine ce vendredi.
Avec à la clé un immense champ de données à exploiter. Sur la plateforme internet, il y a plus d'1 600 000 contributions et non pas contributeurs. Pour trier ces contributions, l'intelligence artificielle fait son travail. Elles sont désormais dans les ordinateurs d'un des prestataires du grand débat OpinionWay. Mais pas seulement, Anne Fauquemberg.
Les données de la plateforme Internet sont anonymisées, mais en open data, c'est-à-dire en accès libre. La société Proxem, spécialisée dans les logiciels d'analyse sémantique, a ainsi dévoilé cette semaine sa propre présentation. C'était mercredi au salon du Big Data à Paris. Le chef d'entreprise, François-Régis Chaumartin, a récupéré le fichier de la transition écologique, 20 millions de mots, 40 fois la taille du livre Guerre et Paix. L'intelligence artificielle a fait le travail.
Elle va pouvoir proposer des centaines de concepts qui sont déjà préorganisés. Et ça donne énormément de puissance pour qu'un analyste dise « ce concept-là m'intéresse, je le choisis comme élément de mon plan de codification ». Et après, hop, ça permettrait de donner des coups de stabilobus à très grande vitesse dans toutes les réponses qui ont été faites.
Mais cette analyse sémantique automatisée, elle questionne un groupe de citoyens, des développeurs, des mathématiciens ou encore des data scientists qui ont créé en février la grande annotation.fr. Pour eux, l'analyse en termes de mots ne rend pas compte de l'intégralité du message. Ils ont donc inventé une application de lecture des contributions du granddébat.fr et ce sont des humains, 900 bénévoles actuellement, qui classent par idée le contenu des messages. Frédéric Marbat est le cofondateur de cette initiative civique.
Déjà, la simple lecture nous semble avoir une valeur importante. Il y a déjà des questions pour lesquelles on a plus de 10 000 textes qui ont été lus et annotés. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer 3 personnes sur chaque texte, au moins, jusqu'à ce que les 3 personnes arrivent à un résumé cohérent et concordant du texte.
10% du granddébat.fr ont été annotés manuellement. Les garants du grand débat n'y voient que du positif, à savoir la mise en tension de la future restitution officielle.
La fin donc du grand débat qui aura duré 2 mois. Transition écologique, fiscalité, organisation de l'État, citoyenneté. Il y a pourtant eu des angles morts lors de ces 2 mois écoulés. Des angles morts identifiés, les jeunes et les banlieues notamment. En banlieue, justement, certains ont bien essayé de faire débattre les jeunes. C'était le cas à Gennevilliers, un soir de février. Voici ce qu'il s'y est dit.
Il ne suffit pas de faire des débats, il suffit aussi pour que ça vous dise des choses. Macron, moi je ne comprends pas sa façon de faire les choses. Dans son entourage, déjà, il n'y a pas de magouilleurs comme Benalla. Moi j'ai l'impression que c'est une dictature moderne. Nous, on commence à en avoir marre de leurs discours qui ne font rien avancer, il n'y a rien qui truc. Il leur a jeté 2 croquettes de 100 euros. Par mois qu'on va vous rajouter ou je sais pas quoi. Faut arrêter. Et c'est des mecs, ils mangent du caviar du matin au soir, à l'Élysée, partout. Et ces gens-là, ils sont mal placés pour nous donner des leçons. Nous, on vit la misère.
Et moi, je voudrais vous poser une question, Hervé. Si vous aviez Macron qui était là, là.
Oh là là là.
Si tu avais Macron, tu lui dirais quoi? Si tu avais une proposition à lui faire?
Franchement, j'ai même pas de proposition à lui dire parce que ça va rien aboutir, ça va rien faire.
Ok.
Oui, Samuel. Qu'ils mettent plus d'investissement pour les jeunes, qu'ils mettent tout le monde sur un même piédestal, tu vois.
Où ça?
Moi, plus d'emplois, moi, pour les jeunes de cité, c'est tout. Hein. Les jeunes de cité, qu'on arrête de nous mettre de côté, qu'on arrête de nous oublier, c'est tout.
Madame, si vous avez une proposition.
D'abord, l'école. Vraiment, l'école, c'est très important.
Moi, j'aurais vraiment souhaité aimer que tous ces milliers de personnes en France qui ont des emplois précaires, là, qui ont des CDD, là, qui trouvent une solution pour que ça se transforme en CDI.
Ouais.
Voilà.
Bonne idée, ça.
Grand débat national, des mots et débats. Après ces 2 mois d'échange, Rosalie Lafarge vous propose ce grand reportage. Ce sera ce soir à partir de 17h sur France Culture avec encore plus de témoignages. Un grand reportage réalisé grâce à Annie Bro. Il sera suivi d'une discussion avec l'historien Jean Garrigue. Et vous pouvez déjà en découvrir la page internet de ce grand reportage sur franceculture.fr. Notons par ailleurs qu'aujourd'hui débutent les conférences citoyennes régionales, des réunions organisées avec des citoyens tirés au sort. Nathalie Loiseau sera-t-elle tête de liste La République En Marche pour les élections européennes? La ministre chargée des Affaires européennes s'est en tout cas dite prête hier soir. C'était sur France 2 sur le plateau de l'émission politique. Lui va conduire une liste aux européennes à gauche. L'essayiste Raphaël Glucksmann l'annonce dans les colonnes du Monde. L'art de déclarer sa candidature, ce sera le thème du billet politique de Frédéric Seyss que nous retrouvons dans 5 petites minutes. Ils veulent repousser le divorce. Les députés britanniques ont voté pour décaler la date du Brexit, initialement prévu le 29 mars prochain, dans 14 jours. Un report de courte durée jusqu'au 30 juin au plus tard, si un traité est parallèlement adopté d'ici à mercredi prochain. Un report d'une plus longue durée si aucun accord n'est trouvé. Bruxelles devra donner son feu vert à ce report et certains représentants des pays membres ont déjà réagi, Pierre Benazet.
Une extension, pourquoi faire? Ces quelques mots sur les réseaux sociaux de Michael Roth, le ministre allemand aux Affaires européennes, résument parfaitement les doutes des Européens. Après le vote de la Chambre des communes, ils sont d'autant plus dubitatifs qu'il leur semble hautement improbable de voir se produire un consensus politique au Royaume-Uni. C'est pourtant ce qui motiverait les 27 à accorder ce délai supplémentaire. La Commission européenne l'a rappelé hier soir, il faudra l'accord unanime des États de l'UE pour repousser au-delà du 29 mars la date du Brexit. Et pour cela, il faudrait une bonne raison. La majorité des États repoussent l'idée d'un délai au-delà du 30 juin, veille de l'entrée en fonction du nouveau Parlement européen. Ils ne sont pourtant pas opposés au principe d'un délai pour ne pas paraître pousser le Royaume-Uni vers la sortie. D'autres craindraient aussi, sur le continent, que si le Brexit se produit avant les élections européennes, ses retombées économiques négatives pourraient pousser les électeurs vers un vote populiste.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un envisage de mettre fin aux discussions autour de la dénucléarisation, discussion avec les États-Unis. Il pourrait même reprendre les essais nucléaires en Corée du Nord. Déclaration menaçante 2 semaines après l'échec du sommet d'Hanoï. Elle a été faite cette nuit par la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Frédérico Jardias.
La Corée du Nord hausse le ton. Nous n'avons aucune intention de continuer à discuter avec les États-Unis tant que ceux-ci ne prendront aucune mesure en réponse à nos efforts, affirme Choi Soon-hee, la vice-ministre nord-coréenne, rappelle que son pays n'a procédé à aucun essai nucléaire ou balistique depuis 15 mois. Devant des diplomates et des journalistes étrangers convoqués en urgence à Pyongyang, elle a aussi déclaré que le dirigeant nord-coréen annoncera bientôt s'il décide de maintenir ou pas ce moratorium sur les essais. Ces menaces peuvent être vues comme une tactique de négociation. Pyongyang accroît la pression sur Washington. Les récents travaux de reconstruction du pas de tir de fusée de Tongchang-ni, entamés fin février, répondent à la même logique. Les États-Unis exigent que le régime dénucléarise d'un seul coup avant toute levée des sanctions, tandis que la Corée du Nord demande, elle, une approche par étapes successives de démantèlement. Si les négociations sont dans l'impasse, Choi Soon-hee a néanmoins pris soin d'éviter toute insulte. Elle a même rappelé que les relations personnelles entre Kim Jong-un et Donald Trump étaient bonnes et que leur entente était, ouvrez les guillemets, mystérieusement merveilleuse. Le dialogue reste donc ouvert.
Frédérico Jardias, depuis Séoul pour France Culture. Nous revenons en France pour quelques mots de météo. De la pluie et de gros nuages sont prévus sur tout le pays, excepté le long des frontières sud et de la Méditerranée. Ce matin, il fait 11 degrés à Lille, 12 à Paris, Nantes, Bordeaux, 13 degrés à Lyon, 15 degrés à Marseille.